VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, midi à N'Djamena. Le premier ministre tchadien, Paimi Padakeb Albert, a été reconduit dans ses fonctions après l'investiture pour un cinquième mandat du chef de l'État, Idriss Déby Itno, selon un décret présidentiel publié hier soir. Le président Déby, âgé de 64 ans, a prêté serment lundi dans un climat tendu après la mort dimanche d'un manifestant dans la capitale tchadienne lors d'une marche d'opposants qui contestaient sa réélection. L'opposition qualifie de hold-up électoral la réélection de M. Déby au premier tour avec près de 60% des voix, loin devant son premier poursuivant Saleh Kebzabo, 12,77%. Le politologue tchadien Mahmad Hassan reste optimiste pour l'avenir.
La campagne électorale et les élections ont été marquées par deux éléments extrêmement importants. C'est surtout la crise sociale qui a conduit à des emprisonnements, qui a conduit à une certaine question de privation de démocratie et de liberté, conduit le Tchad à un petit recul en matière de démocratie et de liberté. Et je pense que c'est un président qui annonce la tolérance, la paix et sa disponibilité pour une convergence de vues.
Professeur Mahmad Hassan, des hommes armés ont tué 3 soldats nigérians dans le delta du Niger, région pétrolifère où les violences se sont largement accrues depuis le début de l'année, a annoncé aujourd'hui l'armée. Les médias locaux ont révélé que les militants étaient déguisés en civils, prétendant être en procession pour un enterrement lorsqu'ils ont attaqué le régiment. Plusieurs armes et munitions ont été dérobées ainsi qu'une canonnière. Les habitants des environs se sont enfuis par peur de représailles de l'armée. Au moins 5 soldats maliens sont portés disparus depuis une attaque dans la région de Mopti, dans le centre du Mali, a déclaré à l'AFP une source militaire qui l'a attribué au groupe djihadiste malien en Sardine. Cette source a attribué l'assaut à des hommes. Donc, dans Sardine, le groupe a revendiqué d'ailleurs une attaque meurtrière perpétrée également dans le centre du Mali contre un camp de l'armée dans la région de Ségou à Nampala le 19 juillet. Selon le bilan officiel, 17 militaires ont été tués, 37 blessés et 6 sont portés disparus depuis lors. Tenenkou est à environ 90 km à l'ouest de Mopti, le chef-lieu de région, et Sévaré à une dizaine de kilomètres à l'est de Mopti.
Débutant le 21.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Voilà, on repart de bon pied avec le Mali en prélude au sommet France-Afrique. Le Mali doit accueillir en janvier 2017. Bamako doit faire donc peau neuve. Le pays s'apprête donc à recevoir cette grande réunion, messe France-Africaine. À cette fin, les autorités administratives de cette ville ont engagé une opération d'assainissement des voies publiques. L'opération a démarré non sans difficulté, car les commerçants, détaillants et autres vendeurs dans les rues de Bamako ne voulaient pas quitter les artères de la capitale malienne. On retrouve notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Débutant le 21 juillet 2016, l'opération d'assainissement des voies publiques de Bamako a des objectifs bien précis selon le gouverneur de la capitale malienne, Sako Amikan.
Il s'agit de libérer les voies et les domaines publics parce que Bamako, tout le monde sait maintenant qu'il n'y a plus de passage pour les piétons ni pour des véhicules. Tout le monde est mélangé. Donc c'est la raison qui nous a poussé à mener cette opération pour assainir Bamako, rendre Bamako son nom d'antan.
Puisqu'il s'agit d'assainir la ville de Bamako, certains occupants des voies publiques n'ont pas posé de problème, comme Seiba Keita, gérant d'un restaurant à la rue Princesse de Bamako.
On a tout enlevé, on a tout cassé, on a tout ramassé nous-mêmes. Non seulement on a cassé, mais on a tout ramassé. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit qu'on veut assainir Bamako, on veut élargir la route, on veut que les fossés soient dégagés.
Les incompréhensions sont nées aux alentours de certains grands marchés de la capitale, où les forces de l'ordre ont été obligées de faire usage des gaz lacrymogènes. Cheikh Oumar Djabi, coordinateur des commerçants détaillants du marché d'Ibida.
On a simplement demandé à la police de donner un peu de temps aux déguerpis d'enlever leurs marchandises. Ils n'ont pas voulu. Et ils ont commencé à affronter, à lancer des gaz partout, créer une insécurité en ville pour rien du tout. Et cette situation, on le regrette.
Le gouverneur a déploré les échauffourées de la journée du 30 juillet passé, qui a occasionné 5 blessés, dont un grave qui est hospitalisé actuellement. Sako Amikan, gouverneur du district de Bamako.
C'est pas fait dans ce dessin. Nous n'avons jamais pensé que ça allait dégénérer comme ça, compte tenu du fait que tous les acteurs ont été consultés et que tout le monde était d'accord.
Face à la colère, les responsables des différents marchés de Bamako se sont mis en coordination pour dénoncer l'usage de la force et exiger l'arrêt des démolitions. Bamba Kanadjigi, de la coordination des commerçants détaillants de Bamako.
Que les plus hautes autorités prennent les dispositions pour mettre fin à ces opérations de déguerpissement en attendant que nous puissions avoir un cadre adéquat de concertation et de discussion.
Déjà, les élus de la nation ont écouté le gouverneur, les commerçants détaillants, les maires des 6 communes du district de Bamako. Des ministres aussi doivent être écoutés avant la synthèse et les recommandations qui seront soumises aux plus hautes autorités. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et la Zambie vote jeudi pour choisir son président dans un scrutin qui s'annonce très serré entre le président sortant, Edgar Lungu, élu l'an dernier, et son rival, Hakainde Hichilema, après une campagne électorale émaillée d'incidents. M. Lungu, âgé de 59 ans, a été élu président de la Zambie en janvier 2015 pour achever le mandat de son prédécesseur, Michael Sata, décédé brutalement en octobre 2014. Une coalition d'ONG congolaises a appelé la mission de l'ONU en RDC à retirer son soutien à la commission chargée d'organiser l'élection présidentielle dont la tenue avant la fin de l'année est devenue improbable. Les précisions, Tatiana Mosso.
La MONUSCO doit retirer son soutien à la CENI, écrit cette coalition de 33 organisations de promotion et de défense des droits de l'homme. Pour ces organisations, la démarche actuelle de la CENI viole de manière flagrante la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution, adoptée le 30 mars, invite la CENI à publier un calendrier complet, révisé, couvrant la totalité du cycle électoral et exige le respect des délais fixés dans la constitution congolaise pour l'organisation des élections. La CENI a commencé à enregistrer des électeurs le 31 juillet dans une province du nord-ouest de la RDC. Ces opérations devront s'étendre dans les 25 autres provinces du pays et doivent durer 11 mois. En marge de sa visite en Ouganda, le président congolais Joseph Kabila a indiqué que la CENI publiera le calendrier électoral à l'issue de ses opérations d'enrôlement d'électeurs, soit pas avant fin juin 2017. Le climat politique se crispe chaque jour davantage, à mesure qu'approche la fin du mandat de M. Kabila, fixé au 20 décembre, et à qui la Constitution interdit de se représenter. Mais l'opposition soupçonne le chef de l'État de manœuvrer pour demeurer en fonction, quitte à reporter la présidentielle. Une décision de la Cour constitutionnelle prise en mai autorise en effet Joseph Kabila à rester à la tête du pays si ce scrutin n'était pas organisé dans les temps.
L'ONU a appelé à une pause dans les combats à Alep et à un accès immédiat aux quelque 1,5 million d'habitants qui risquent d'être totalement assiégés dans cette ville du nord syrien où rebelles et régimes se préparent à une bataille décisive. Des combats intenses ont eu lieu ces dernières semaines dans et autour de cette ville, divisée entre quartier est aux mains des rebelles et quartier ouest contrôlé par le régime, chaque secteur étant quasi encerclé par le camp adverse. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré aujourd'hui à Saint-Pétersbourg son homologue Vladimir Poutine pour sceller la réconciliation après des mois de froid diplomatique. Cette visite intervient à peine un mois après la réconciliation fin juin, permise par les regrets exprimés par M. Erdogan pour la destruction en novembre par la chasse turque d'un avion de combat russe au-dessus de la frontière turco-syrienne. Et la Turquie a averti aujourd'hui les États-Unis par la voix de son ministre de la Justice de ne pas sacrifier les relations bilatérales en raison, je cite, du terroriste Fethullah Gulen, à l'origine, selon Ankara, du putsch avorté du 15 juillet. Le président Recep Tayyip Erdogan, qui a accusé Washington de nourrir et protéger sa bête noire et ex-alliée, a fait comprendre aux États-Unis qu'un refus d'extrader l'ex-imam aurait des conséquences sur les relations bilatérales. Ankara a envoyé de nombreux dossiers à charge aux États-Unis pour son extradition.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et puis une coalition arabe alliée au pouvoir au Yémen a mené aujourd'hui pour la première fois en plus de trois mois des raids sur la région de Sanaa, entraînant la fermeture de l'aéroport de la capitale contrôlée par les rebelles. Selon des habitants et un responsable, le porte-parole de la coalition arabe sous commandement saoudien, le général de brigade Ahmed Al-Assiri, a confirmé à l'AFP la reprise des raids aériens et la fermeture de l'aéroport de Sanaa, tout en affirmant que seuls des objectifs militaires avaient été visés aux alentours de la ville. Et puis les talibans qui ont lancé depuis une dizaine de jours une forte offensive dans le sud de l'Afghanistan se rapprochent aujourd'hui de la capitale du Helmand, productrice de pavots dont ils contrôlent déjà de larges pans. L'inquiétude est particulièrement vive car les combats se rapprochent de la capitale provinciale, Lagaka, qui abrite près de 200 000 habitants. Jean-Roger Billon, à plus tard.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.